L'urgence d'éduquer dans les camps de réfugiés parmi les migrants, enfants et adultes. En France aussi, à Calais, dans ce qu'on appelle la jungle, avec entre autres des enseignants bénévoles.
On reçoit tous les enfants, quelle que soit leur religion. Pour moi, qu'ils soient musulmans, athées ou chrétiens, ça m'est complètement égal. Ils sont là parce qu'ils ont besoin d'être scolarisés, d'apprendre à vivre avec d'autres enfants et puis d'apprendre tout simplement. Voilà.
Reportage donc dans ce numéro de Rue des Écoles, puisque nous sommes allés cette semaine à Calais. Et puis ici, à Paris, nos invités évoqueront plus largement l'urgence éducative. Avec nous, l'association Solidarité Laïque, Bibliothèque Sans Frontières et Migrants, association de l'École Normale Supérieure. Émission raccourcie encore ce dimanche. Nous succédons pour 5 semaines encore aux conférences de carême données à Notre-Dame. Marie-Caroline Missire, bonjour. Vous allez nous donner l'essentiel de l'actualité de l'école.
Oui, bonjour à tous. Et au programme aujourd'hui, la pénurie d'enseignants et la forte mobilisation de l'enseignement supérieur pour l'accueil des migrants, justement.
On vous retrouve dans quelques secondes. Attachée de production, Laurence Genepin. Alexandra Malka est à la réalisation, à la technique, Bruno Gagnère, Fontani.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Touré.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
L'éducation fait partie des besoins de base de tous les enfants. L'éducation est un droit reconnu dans la Convention des droits de l'enfant, ratifiée évidemment par la France. Apprendre à lire, à compter, donc apprendre une langue, c'est ce à quoi s'attellent les petits et grands élèves de l'école du chemin de Dunes à Calais, dans laquelle Rue des Écoles s'est rendue. On va y consacrer un reportage, une école soutenue par une association, Solidarité Laïque. Bonjour Laurence Bernabeu.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la communication de cette ONG, avec vous Michel Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des écoles, secrétaire national du syndicat SNUIPP, secteur droit et liberté internationale. Je ne savais pas qu'un tel secteur existait dans votre syndicat. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que, en plus de l'éducation, nous estimons que l'école est au centre de la société et à ce titre, nous nous occupons aussi des questions de droit. Et par exemple, le droit à l'éducation et à l'international, parce que les problèmes de l'école en France rejoignent régulièrement les problèmes de l'école ailleurs dans le monde. Nous avons avec Solidarité Laïque d'ailleurs et beaucoup d'autres organisations, créer un collectif qui s'appelle Agir Ensemble pour le droit de l'enfant. Et en partie, on a travaillé ces questions d'accès à l'éducation. Et il reste en France des enfants que l'on peut qualifier de vulnérables par différents aspects. Par exemple, la question du handicap. La loi de 2005 existe, mais tous les problèmes ne sont pas résolus. Il y a aussi les mineurs isolés étrangers. Il y a aussi les enfants roms. Et justement, la France a été auditionnée à Genève en janvier. Et c'est un des reproches qui lui a été fait, c'est de ne pas encore avoir réglé toute cette question du droit à l'éducation.
Le chemin donc qui reste à parcourir pour notre pays. On parlait d'école élémentaire, parlons d'enseignement supérieur. Il est mobilisé, on va l'entendre dans un instant. Bonjour Laetitia Basselier.
Bonjour.
Vous faites partie d'une association qui s'appelle Migrants, Migraines.
Migrants. Oui.
Alors c'est un jeu de mots avec ENS.
Oui, il y a ENS dedans.
Une association qui vient d'être fondée.
Qui vient d'être fondée, mais qui s'occupe d'un programme qui existe depuis octobre à l'ENS.
Un programme qui consiste à...
Qui consiste à accueillir des réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants qui ont déjà fait des études supérieures et qui veulent se réinsérer dans le milieu universitaire ou étudiant français. Et donc, on donne des cours de français intensifs et il y a un suivi par des élèves et des professeurs pour aider à cette réinsertion universitaire.
Et puis, la cause de l'éducation est défendue par des ONG en France et aussi à l'étranger, partout à travers le monde. C'est pour cela que je tenais à inviter Bibliothèque Sans Frontières et vous, donc Jérémy Lachal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de cette association présente dans combien de pays ?
Aujourd'hui, dans une vingtaine de pays.
Et donc, vous avez inventé, enfin, vous faites la promotion d'une invention qui s'appelle IDs Box. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, Lady S-Box, c'est une médiathèque en kit qui tient sur deux palettes. Donc, elle peut rentrer dans les canaux de l'aide humanitaire, c'était ça qui était important, et qui peut être envoyée partout dans le monde, dans les endroits les plus difficiles, compliqués d'accès, et qui se déploie en 20 minutes pour créer un espace de 100 mètres carrés où, à l'intérieur, on va trouver un accès à Internet, satellitaire ou 4G, on va trouver des livres, on va trouver un cinéma, on va trouver de quoi faire du théâtre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cet espace devient un outil de créativité au service des populations qui se l'approprient et qui, grâce à cet outil, peuvent commencer à produire des contenus éducatifs, peuvent accueillir des classes pour faire l'école, peuvent écrire des livres, réaliser des films, etc.
On vous retrouve tous après notre page d'actualité avec Marie-Caroline Missire, en partenariat évidemment avec L'Étudiant. L'Étudiant dont Marie-Caroline est directrice de la rédaction. Oui, oui, ne rougissez pas. Nous commençons par un retour sur une actualité politique et éducative.
Absolument, car c'est un tour de force qu'a réussi une jeune association étudiante, sobrement baptisée l'École républicaine, réunir dans un même ouvrage, et réunir tout court, les contributions sur l'égalité des chances des principaux ténors de droite, à savoir Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, je n'en cite que trois d'entre eux. À la manœuvre, un certain Antoine Valmorel, étudiant à Sciences Po.
Ce nom me dit quelque chose.
Vous allez voir, il a 23 ans. Et il ne nous est pas tout à fait inconnu, puisque nous l'avions reçu ici même dans Rue des Écoles, l'an dernier, à l'occasion du débat contre la suppression des bourses au mérite. Un jeune homme à suivre, en tout cas, et une initiative qui souligne plus, je crois, que le contenu de ses prises de position, assez convenu, vous les lirez, que la droite fait du débat sur l'école un axe fort de campagne, pour ceux qui en doutaient encore.
C'est ce qu'on va voir dans l'année qui vient, mais l'éducation, c'est donc un bon sujet pour rentrer en politique. 23 ans, Antoine Valmorel. Autre actu de la semaine, Marie-Caroline, du crépage de Chignon, encore et toujours sur l'orthographe.
Oui, à grand renfort de missives publiques et de prises de position dans la presse. Je vous rappelle le dernier épisode. L'académicienne Hélène Carrère-Dancos a dénoncé la réforme de l'orthographe, ce à quoi la ministre Najat Vallaud-Belkacem a sèchement rétorqué que c'est l'académie elle-même en 1990 qui avait validé cette réforme. Bon, rien de très neuf dans cette histoire, outre un débat finalement pas si accessoire sur l'orthographe qui, selon certains observateurs comme l'historien Claude Lelièvre, est aussi un marqueur social. Peut-être que Najat Vallaud-Belkacem est en train de retourner une polémique dont elle se serait bien passée à son avantage, la défense de l'orthographe étant au fil des semaines assimilée à un réflexe de classe dominante.
J'attends les réactions des auditeurs sur la question. Mais pas de quoi nous faire oublier la réforme du collège.
Bien sûr que non. Le syndicat SNALC annonce qu'il va boycotter la surveillance et la correction des épreuves du bac et la correction du brevet. Un préavis de grève est déposé pour le 15 juin et jusqu'au 5 juillet. Vous voyez un peu à quoi ils veulent en venir. Mais pénaliser les élèves est-il la meilleure manière de faire reculer le ministère? Je n'en suis pas certaine.
Du côté des parents, l'heure est aussi à la mobilisation. La FCPE a publié des chiffres. Célia Kiré pour France Info.
À l'école Olivier Dessert, par exemple, les élèves d'une classe de CM2 ont été particulièrement lésés. Leur enseignant, absent, n'a pas été remplacé correctement depuis le 4 janvier. Véronique Chauffard est une représentante de la FCPE.
On a une classe, par exemple, de CM2 dont les enfants ont perdu 6 semaines d'école, 6 semaines d'aucun apprentissage, avec des remplacement deux jours par-ci, deux jours par-là, et ensuite les enseignants remplaçants partaient, étaient affectés dans d'autres écoles, donc les enfants étaient même demandés parfois à rester chez eux, ou étaient dispersés dans des classes d'autres niveaux, donc voilà, on est fortement mécontent de la situation.
Et selon la FCPE, 40 enseignants contractuels ont déjà été recrutés à Paris depuis le mois de septembre pour les écoles primaires. L'an dernier, cet appel à des maîtres non formés avait commencé en mars. Visiblement, les 35 000 créations de postes d'enseignants au niveau national depuis 2012 n'ont pas suffi.
Et le ministère a aussitôt répondu vendredi en rappelant que 30 millions de journées ont bien été assurées dans le premier degré depuis le début de l'année. Bon, c'est une façon de relativiser les chiffres de la FCPE. Le ministère rappelle aussi que 8% des emplois d'enseignants ont été affectés au remplacement et que c'est
surtout la précédente mandature, à savoir Nicolas Sarkozy, qui a fait des dégâts dans le remplacement des enseignants.
On peut encore s'inscrire au concours exceptionnel pour l'Académie de Créteil. C'est assez facile, je fais le test. Vous pouvez essayer
de s'inscrire, c'est bien ça que vous voulez dire.
De s'inscrire, pas d'avoir le concours. Enfin, ça, c'est un autre débat. L'Institut Montaigne.
Oui, je vous rappelle que la semaine qui vient, l'Institut rendra son rapport sur les apports du numérique à l'école et son impact sur les apprentissages. C'est un rapport qui est très attendu. Nous vous en reparlerons la semaine prochaine.
Oui, on va regarder ça de près. Enfin, c'est notre sujet du jour et c'est l'actualité aussi de l'enseignement supérieur. Des établissements se saisissent de la question des migrants.
Les initiatives se multiplient, il faut le souligner. Sciences Po a publié un communiqué jeudi dernier. C'est une quarantaine de réfugiés qui seront accueillis en tant qu'auditeurs libres dans le prestigieux établissement de la rue Saint-Guillaume. Ils bénéficieront de cours d'anglais et de français, auront accès à la bibliothèque et à toutes les ressources de Sciences Po. Derrière cette initiative soutenue par la présidence de l'école, une étudiante, Aliette Tritsch, on cite son nom parce qu'elle a l'air assez formidable, cette Aliette. Elle a créé la branche française de l'ONG allemande Cairon qui promeut les poursuites d'études dans le supérieur en utilisant ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire un mélange de cours en ligne et de cours en présentiel. Et puis, autre initiative à souligner, Paris 8 aussi se mobilise de manière originale avec la conférence des réfugiés qui s'est tenue le 10 février dernier. L'objectif, c'était de permettre aux migrants de partager dans un cadre universitaire et d'expliquer la situation géopolitique de leur pays. Et puis vous, à l'ENS ?
Alors, nous, depuis le début de l'année, on se rencontre très régulièrement avec les étudiants de ces différents établissements et on discute des initiatives qu'on peut mettre en place. On discute d'abord, enfin, certains professeurs sont là aussi pour discuter, mais ça part souvent quand même des étudiants, des professeurs qui ensuite vont rencontrer la direction, l'administration des établissements et ensemble, on essaye de former des programmes. On est quand même des personnes qui sont allées sur les camps. Donc à Paris ou à Calais, donc on a rencontré des réfugiés, des personnes en trajectoire migratoire et voilà, les projets qu'on soutient, ils naissent d'un besoin identifié auprès de ces personnes et auquel on veut, enfin voilà, on veut vraiment intégrer ces personnes à la construction de ces projets.
France Culture,
rue des Écoles,
Louise Touré.
Laetitia Basselier, vous parlez de projets auxquels les gens étaient associés. C'est le cas à Calais, dans ce campement qu'on ne devrait peut-être pas appeler la jungle, qui est une sorte de bidonville. Je m'y suis rendue cette semaine pour voir une école, l'école laïque du chemin des dunes. Vous le savez, la partie sud du campement de Calais est aujourd'hui menacée de destruction imminente. L'école devrait être sauvegardée. On ne connaît pas très bien son avenir si elle n'a plus d'élèves dans les parages. J'ai voulu en savoir plus sur l'histoire de ce petit établissement. J'ai donc rencontré Virginie Thibérien. Elle est coordinatrice bénévole et nous raconte bien comment est né ce projet.
Elle a été construite en juillet 2015. Donc elle a été inaugurée une première fois mi-juillet. C'était une classe uniquement pour les adultes. Et ensuite, en novembre, on a ouvert une classe pour les enfants à un autre endroit du camp parce qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient arrivées, notamment d'Irak, du Kurdistan.
Cette école pour adultes ou pour enfants, elle s'est toujours appelée école laïque. Quel sens ça revêt pour vous que ce soit une école laïque ?
C'est la laïcité, c'est l'accueil de tous. Quelle que soit la nationalité, la confession. Donc, on a en classe, parmi les adultes, par exemple, il y a des gens qui viennent d'Irak, d'autres d'Iran, du Kurdistan, du Pakistan, du Soudan et d'Afghanistan aussi. Et puis, en fait, tous les gens s'entraident au niveau des cours. Ça crée du lien entre les gens, avec nous aussi. Donc, c'est une belle interaction. C'est un lieu qui est très vivant, qui est très multiculturel, c'est très enrichissant pour nous aussi.
Les enfants dans le camp, c'était un petit peu nouveau ?
Oui, c'était nouveau. Donc il y a eu une nouvelle équipe de bénévoles qui sont des professeurs de primaire qui viennent bénévolement donner des cours aux enfants en binôme pour pouvoir accueillir toutes les tranches d'âge en même temps. On a une équipe de profs réguliers français qui viennent chaque semaine. Et en plus, il y a des intervenants extérieurs qui viennent faire des ateliers ou des animations ou d'un spectacle de marionnettes, par exemple.
Des professeurs, justement, j'en ai rencontré plusieurs. J'en ai interviewé une. Je me suis fait toute discrète, hein, au fond de sa petite salle de classe, chauffée par un poêle à bois. Et entre deux séquences, j'ai pu lui tendre mon micro.
Tu vas répéter ce que tu as dit.
Donc, je suis Sandrine, je suis institutrice dans la vie. Et je viens bénévolement le mercredi après-midi, donc une fois par semaine, pour les enfants de l'école du Chemin des Dunes. Voilà.
Quel âge ont les enfants, des âges assez différents les uns des autres ?
Depuis qu'on a commencé, on a vu des petits bouts de chou de 2 ans, qu'on n'a pas beaucoup gardés parce qu'on ne peut pas beaucoup travailler avec les tout-petits. Et en général, ils ont de 5 à 4 ans même, 4 ans à 11 ans.
Comment vous préparez une séance et les séquences de cours ici ?
Eh ben, on discute entre plusieurs bénévoles et ça c'est riche et c'est ce que j'apprécie par rapport à peut-être d'autres équipes pédagogiques professionnelles. on essaye de s'adapter, faire du jeu et puis quand ça marche pas, eh ben, on fait comme d'habitude, on reprend et on fait autre chose, voilà. Et on fait par imitation, avec l'aide des enfants qui peuvent traduire. Il y en a beaucoup qui se débrouillent quand même en anglais. Donc moi, je n'enseigne qu'en français pour ma part. Hein. Mais si on est bloqué, ça nous arrive d'essayer d'expliquer en anglais.
Que savez-vous du passé scolaire et du passé aussi sans école des enfants que vous rencontrez ici, à qui vous faites la classe ?
Je ne sais strictement rien du tout et par contre je m'adapte en fonction de ce que je rencontre sur leur production. On a commencé la numération et on s'aperçoit que les réponses, puisqu'on a commencé à passer à l'écrit, c'est tout récent, les réponses à l'écrit sont très diverses d'un enfant à l'autre et on se dit il y en a qui ont été scolarisés avant, ça c'est évident. Ou bien qui ont été scolarisés par leurs parents, je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose. Et il y en a pour qui il n'y a rien, même le tracé avec un tracé simple, c'est difficile, quoi.
J'ai demandé à Sandrine pourquoi finalement elle venait enseigner ici, à Sava, Dania, Mazen ou Marsa, dans ces moyens très modestes.
Moi je viens ici pour combler un manque, parce qu'à mon sens il y a un manque, effectivement. Donc c'est mieux que rien. Voilà, il y a des gens en plus qui prennent parmi les migrants les choses en main et ça me plaît beaucoup. Donc moi je veux bien apporter un petit peu d'aide, mais c'est sûr que toute seule j'aurais jamais fait quoi que ce soit. Donc c'est important de se reposer sur les gens qui vivent ici. Et puis par contre, je pense que s'ils étaient dans des écoles françaises comme ça devrait être, ils progresseraient beaucoup plus vite, voilà, tout simplement. Et en étant sur leur niveau scolaire avec d'autres enfants, je pense que ça serait quand même mieux.
Le droit à l'éducation, c'est un droit que vous défendez à Solidarité Laïque, une association, donc on l'a entendu, hein, laïque c'est important, ça veut dire que c'est ouvert à tous. Ça, vous rejoignez la définition de Virginie Tibérien ?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, quand le SNUIPP nous a informé de l'existence de l'école laïque du Chemin des Dunes en septembre et nous a dit qu'il faut absolument pouvoir les aider, on s'est bien retrouvé effectivement dans ce projet. Laïcité au sens de vivre ensemble, au-delà des différences, au-delà des origines, des confessions, et de partager en commun ce que l'on peut partager en vue de l'intérêt général. Après, c'est quel chemin on va emprunter par rapport à ce public très particulier. Et au sein même des migrants qui sont dans le camp, il y a aussi toutes sortes de projets qui sont très différents. Et ce que l'on propose, nous, en tant que Solidarité Laïque, c'est ce que nous faisons aussi à l'international, à savoir faire en sorte de pouvoir engager un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, parce que la situation est très complexe, parce que on est devant une situation totalement inédite, qu'on ne connaît pas, en tout cas pour la France. Et l'objectif, c'est vraiment que l'on puisse, en intégrant les migrants aussi, eux-mêmes, et les différentes expertises, les différents points de vue, y compris bien entendu en travaillant avec les pouvoirs publics, partager une analyse, confronter les regards, pour pouvoir construire progressivement une solution qui soit adaptée aux besoins des personnes qui sont sur place. Et ça n'est pas si simple.
Pas si simple, Michel Olivier, que pourrait-on faire, que devrait-on faire l'État, les pouvoirs locaux à Calais ?
Alors les premières rencontres avec l'inspection académique étaient un petit peu compliquées parce que la réponse était les familles ne demandent pas à ce que l'enfant soit scolarisé, donc pourquoi le syndicat vient demander à ce que les pouvoirs publics prennent leur place. Alors effectivement, c'est ce que dit Laurent, c'est-à-dire c'est vraiment une situation très particulière et nous ce que l'on pense c'est qu'il faut essayer de réfléchir à cette situation inédite en ne proposant pas quelque chose, voilà, on a trouvé la solution. Il faut vraiment prendre en compte les situations. On doit rappeler que la plupart de ces personnes, nous, que l'on a rencontrées aussi à Calais le 6 février, nous disent « mais nous, on ne veut pas rester en France ». Or, avoir un projet éducatif pour son enfant, ça voudrait dire qu'on a l'intention de s'installer en France. Donc, il faut déjà travailler cet aspect-là auprès des familles. Et ensuite, la scolarisation, l'éducation, elle ne va pas forcément de soi. D'abord, il y a le problème de la langue. La collègue le disait dans l'interview que vous avez
passée. Alors, visiblement, les enfants sont kurdes, effectivement. Oui. Ils ne parlent ni français, ni anglais.
Donc, à travers l'apprentissage de la langue, il y a aussi tous les autres apprentissages éducatifs qui se font. Toute la socialisation, l'apprentissage de l'autonomie, etc. C'est pour ça que le droit à l'éducation est important. C'est parce qu'il ouvre aussi sur d'autres droits.
Jérémy Lachal.
Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que je suis entièrement d'accord. Au-delà du projet politique de s'intégrer dans une société à travers l'éducation, etc., il y a une première étape qui est, à mon sens, extrêmement importante, essentielle, qui est celle de la protection. Et protéger les enfants, les faire rentrer dans des écoles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, des classes un peu particulières comme celle-ci, pouvoir leur donner un espace sécurisé dans lequel ils apprennent, ils sortent de la réalité, l'horrible réalité du quotidien du camp, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs ce qu'on fait beaucoup, nous, à l'international, avec ce qu'on appelle les safe spaces, vous savez, ces espaces sécurisés, la Ideas Box en est un. Mais voilà, une classe comme ça à Calais, ça permet ça d'abord, protéger. Et je crois que c'est la première étape du triptyque protéger, éduquer, intégrer.
Et c'est le joli mois de mars, car il y a toujours un mais. Et comme on a froid aux godasses, on se réchauffe les poignets. Rajoute la dernière palette et la chaise foutue. Que ça fasse briller nos mirettes de voir le feu danser dessus. Isidine, salam. Before the truck, easy din. Welcome. I wanna give you my luck. On n'a pas tous le même passeport. On n'est pas tous partis pareil. On vit pas tous le même essor. Tous froid aux orteils. Ici la pluie coule et ruisselle. Ici le vent est continu. Ici tu peux toucher le ciel, vu qu'il nous tombe toujours dessus. Easy din, salam. Take a tea before the truck. Easy din, welcome. I wanna give you my luck. Easy.
De Saturne, une musique ramenée bien par moi-même de Calais, du campement sud. C'est un bénévole qui m'a donné son CD. Plus sérieusement, pour reprendre sur cette émission sur l'urgence éducative dans les camps de réfugiés partout à travers le monde et donc aussi en France, j'ai eu une question toute bête à vous poser, Michel Olivier. Comment mesurez-vous la gravité et l'urgence d'une situation de non-scolarisation ? En quoi et comment est-ce préjudiciable ? Comment vous le voyez-vous en tant qu'enseignante de ne pas aller à l'école pendant plusieurs mois, plusieurs années ?
Ce qui se passe, c'est que l'école, alors forcément, on peut penser aux apprentissages que l'on dit fondamentaux, lire, écrire, compter, mais à l'école, il se passe aussi beaucoup d'autres choses. On développe aussi beaucoup d'autres compétences et tout apprentissage qui est arrêté net, en fait, il faut recommencer. Alors, on dit que la plasticité du cerveau de l'enfant fait que très vite, il peut se réadapter. Mais ceci dit, là, on est dans un cas de figure particulier, c'est-à-dire que la scolarité est interrompue. Et en plus, il y a un traumatisme parce que les enfants vivent une situation quand même extrêmement difficile entre le pays qu'ils quittent et le moment où ils arrivent à Calais dans ce camp, où ils vivent dans des conditions très précaires. Enfin, voilà, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, se remettre à des apprentissages, ça n'est pas si simple que ça. Pour les plus petits, ça semble un petit peu plus facile. On a vu à l'école comment ils avaient, à l'école du chemin des dunes, très vite, ils retrouvent une concentration, une appétence pour les apprentissages. Mais ceci dit, toute rupture demande à nouveau de se remettre dans un processus éducatif. En plus, là, culturellement, ça n'est pas calqué forcément sur le modèle de ce qu'ils ont connu plus jeunes. Et donc, plus les ruptures seront longues, plus ce sera difficile. Et on voit bien dans tous les systèmes éducatifs, on lutte contre l'abandon scolaire parce que c'est très difficile de se remettre à l'école, à l'enseignement, quand on l'a quitté pour un moment plus ou moins long.
C'était bien de le rappeler et je me tourne vers vous, Jérémy Lachal. Il y a un chiffre, un nombre d'années, 17 ans. Expliquez-moi ce que ça signifie, ces 17 ans.
Alors je crois malheureusement qu'on est passé cette année à 18 ans. 18 ans, c'est le temps moyen passé par un réfugié dans un camp, dans le monde, dans l'histoire. C'est-à-dire, je me méfie toujours des chiffres et évidemment ce chiffre est largement grévé par les réfugiés palestiniens qui sont dans les camps depuis plusieurs générations parfois. Mais c'est quand même un chiffre effrayant parce que la plupart du temps, alors ça dépend des endroits du monde, des pays qui accueillent les populations réfugiées, mais la plupart du temps, quand on est dans un camp, on n'a pas le droit de travailler et parfois, bien souvent, on n'a pas le droit de sortir de ce camp. Donc 17 ans dans une prison à ciel ouvert. Si vous allez aujourd'hui à Zaatari, le très grand camp de réfugiés syriens en Jordanie ou à Azraq à côté. Ce sont des camps qui sont au milieu du désert, parfois sans eau ni électricité, avec effectivement des grandes barrières ou des grands fossés autour, au milieu du désert. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a couvert les besoins prioritaires, se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir, ces besoins qui sont essentiels, qui font l'aide d'urgence humanitaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, en réalité, la première chose qui apparaît, c'est que les gens s'ennuient profondément, se déshumanisent quelque part, parce que justement, ils deviennent des chiffres, des réfugiés, parce que ils deviennent complètement assistés dans une dépendance totale de l'aide humanitaire, et il n'y a aucun, je dirais, outil qui leur permet de se projeter. Alors ce qui se passe en réalité, c'est ce qu'on voit à Calais, c'est ce qu'on voit à Zaatari. À Zaatari, il y a une rue qui s'appelle les Champs-Élysées. Et en fait, c'est la grande avenue de Zaatari où il y a plein d'économies informelles qui renaît. Parce que évidemment, les gens n'en restent pas là. Et ils travaillent, et ils travaillent au noir, et ils font des petits commerces, etc. Il y a des écoles qui se créent. J'ai visité des camps informels dans la vallée de la Beka au Liban, où il y avait des écoles qui étaient montées par les réfugiés eux-mêmes, avec donc ce curriculum syrien. C'est une des grandes questions
On n'a pas parlé de Zimako Jones, mais c'est aussi le monsieur qui, dans le camp de Calais, je n'ose plus dire jungle maintenant, a monté cette école. Vous parliez d'économie informelle. Alors, c'est très étonnant. Moi, je n'avais pas eu l'occasion de me rendre à Calais, dans ce campement dans lequel aussi il y a de l'économie informelle. Bien sûr. Des restaurants. Ben voilà, c'est là où on déjeune quand
on
se rend.
Boîte de nuit,
ça, j'ai pas vu un hammam, un coiffeur et des boutiques. Ça ne veut pas dire qu'on y vit bien, mais ça veut dire qu'on y vit, puisque cette partie du camp doit être rasée. Il y a des inquiétudes évidemment sur l'avenir de l'école, même si elle n'était pas directement menacée. Je vous propose d'écouter encore une fois Virginie Thiberghien. Cette école est construite dans une structure de toile, mais avec une charpente en bois. C'est un bâtiment qui est à moitié pérenne, mais de toute façon, en ce moment, son avenir, d'après ce que j'ai compris, est compromis. Qu'est-ce qui va arriver là dans les jours qui viennent, vous pensez ?
Je pense qu'ils vont inciter les gens à aller dans les containers ou dans les centres de répit. Après, il y a une marge de population qui ira certainement ailleurs, donc... on ne sait pas où, mais voilà, que ce soit des squats ou dans d'autres villes. Et puis, l'école, bon, si les gens sont en container, c'est quand même à 500 mètres de l'école. C'est très, très sécurisé. Il y a des vigiles à l'entrée. On ne pourra pas aller informer les enfants comme ça facilement qu'il y a un cours. Donc, une école sans élèves, ça va être difficile. On verra si l'école arrive à vivre, si on arrive quand même à faire venir les gens. Mais voilà, c'est un peu l'incertitude, on ne sait pas.
Incertitude pour l'école et les propos de Virginie Thiberghien recoupent ce que vous disiez, Jérémy Lachal, un nouveau camp qui est provisoire, mais dans lequel finalement on peut moins circuler, dans lequel on ne peut pas non plus cuisiner, plus de place pour l'économie informelle. Alors évidemment, situation qui doit être provisoire, mais on sait qu'à Calais, rien n'est provisoire. Cette jungle, elle a aussi quelques années derrière elle. Vous êtes inquiète en tant qu'associative, Laurence Bernabeu, aussi sur l'avenir de cette structure éducative?
Alors, on a été très inquiets la semaine dernière avec l'annonce par la préfète de la destruction donc de la zone sud du camp. Suite à ça, on a lancé donc une mobilisation regroupant plusieurs organisations, tous ceux qui sont impliqués dans le camp. Apparemment, donc, cette école va être préservée. Néanmoins, quant à la destruction de la partie sud du camp, c'était programmé pour aujourd'hui. Ça ne sera pas le cas, mais encore beaucoup d'incertitudes. Néanmoins, il y a eu une réunion donc qui a eu lieu jeudi dernier, avec l'inspection académique, avec le sous-préfet. Un dialogue est engagé, un dialogue qui n'existait pas jusqu'à présent, pour pouvoir réfléchir à la façon dont les choses vont se passer.
Ce qui pose la vraie question politique, on en a parlé à plusieurs reprises, mais il y a une responsabilité de l'État envers au moins les enfants. Et pour l'instant, ces questions étaient largement éludées. C'est maintenant qu'elles sont mises au jour, Michel Olivier.
Oui, je crois que le mérite, je dirais, de l'inauguration le 6 février, le fait de médiatiser, l'inauguration de l'école du chemin des dunes, de médiatiser en fait l'existence de cette école et de dénoncer l'absence des pouvoirs publics. Je pense que ça a été un moment très fort et que ça a permis justement que ces premières discussions aient lieu et que ça se poursuive. Avec, comme je disais tout à l'heure, bien réfléchir aux modalités. J'ai demandé à une collègue allemande, justement, parce qu'on vante beaucoup ce qui se passe en Allemagne, comment les enfants sont accueillis dans les écoles. Et elle m'expliquait qu'il y avait différents dispositifs. On parle beaucoup des Willkommen Class, excusez-moi pour l'accent à Berlin.
Classe de bienvenue, Willkommen.
Voilà, Willkommen. Et donc, elle me dit que ça n'est pas partout comme ça et que ce qu'ils demandent eux aussi, c'est un accompagnement. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement l'éducation, il faut vraiment accompagner les familles, les enfants avec des psychologues, etc.
Jérémy Lachal.
Oui, parce que ça existe en France aussi et je pense qu'il faut le dire. Je crois qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé à Calais, c'est que quand on a décidé de sortir les gens qui étaient dans la ville. Et il y avait des réseaux de solidarité qui existaient. Et il y avait toute une structuration, en fait, du soutien par les habitants eux-mêmes. Quand le camp a été déplacé et était sorti, et tous les gens ont été regroupés au même endroit, à 7 km de Calais, il faut bien le dire, à ce moment-là, on casse complètement tout ce qui peut exister. Et effectivement, aujourd'hui, on dit 500 mètres, c'est loin. Mais vous imaginez 7 km pour aller faire ses courses. Et donc, en fait, en réalité, ce qui est normal aussi, enfin, on peut le comprendre, on peut voir ce qui pèse sur les populations hôtes, c'est toujours la même chose. Nous, on fait toujours très attention à cette question qui est que, bah, quand on accueille aussi, on a une pression, on a un vrai poids sur les épaules parce qu'il y a cette obligation de solidarité, etc. Mais en même temps, un peu partout en France, on voit des écoles qui accueillent des réfugiés, qui accueillent parce que, et je crois que c'est l'autre chose auquel il faut faire très attention, c'est la différence entre des populations qui sont migrantes et des populations qui sont réfugiées statutaires. Une fois qu'elles sont réfugiées statutaires, elles sont dans le pays pour rester, et là, les enfants sont obligatoirement scolarisés.
Et là, ce n'est plus la même question. Marie-Caroline Missire.
Je rebondis sur ce que vous disiez, Jérémy Lachal, tout à l'heure, sur le curriculum syrien qui est suivi au Liban, dans la Beka, donc... un aspect contradictoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, pour ces enfants qui sont là de manière temporaire, a priori, un curriculum
international qui puisse répondre à leurs besoins. Est-ce qu'il n'y a pas des formules pédagogiques,
une référence en termes de programme pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le terme curriculum?
C'est une question très politique. C'est-à-dire qu'au Liban, les choses ont beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de pression sur ces écoles informelles qui faisaient l'école syrienne. Et aujourd'hui, les enfants suivent le curriculum libanais. Mais en même temps, c'est un vrai choix politique d'État de dire les enfants en France vont suivre le curriculum français parce que ces enfants sont là pour rester. Et en même temps, on peut comprendre les populations réfugiées syriennes qui sont au Liban et qui se disent « Moi, je vais rentrer dans mon pays et je veux que mon enfant y suive l'école syrienne. » Donc, c'est des questions qui sont extrêmement complexes. Je ne suis pas sûr que dire « On fait un grand melting pot de programme international » résolve le problème, parce que malheureusement, ce chiffre 18 ans, c'est qu'on voit bien que ce sont des conflits qui durent longtemps et que j'ai bien peur que les réfugiés syriens, ils rentrent pas encore chez eux. Et
du coup, au moins en anglais.
Ou au moins en anglais, mais je veux dire, des enfants aujourd'hui qui sont accueillis dans le système scolaire français ont intérêt à faire leur scolarité en français pour pouvoir rester en France et s'intégrer. Je crois que c'est aussi un pari de l'accueil et de l'intégration que notre pays doit faire, et pas penser ces populations comme des étrangers qui vont repartir. C'est plutôt un apport, et justement un apport multiculturel pour notre pays. Et je crois que c'est important aussi de le voir comme ça, parce que c'est une façon de le voir de façon positive et pas simplement négativement, comme ce sont des réfugiés.
Comme le font aussi un certain nombre d'habitants de la région de Calais.
Exactement.
Il y a aussi cette hostilité, on n'en a pas parlé, mais évidemment, elle existe. Il suffit de se balader dans les alentours du campement pour le constater. Laetitia Basselier, vous enseignez à des migrants, hein, à l'ENS, où vous en accueillez un certain nombre. Que vous disent-ils? Que vous demandent-ils? Quels sont leurs rêves aujourd'hui?
Alors justement, nous, on a eu l'idée de monter ce programme. Donc Migrants, notre association, s'occupe du programme étudiants invités à l'ENS. On a bien fait attention aux mots. Étudiants invités, ça veut dire qu'on ne tient pas compte du statut administratif de ces personnes qui sont en trajectoire migratoire. Donc ça peut être des demandeurs d'asile ou des réfugiés statutaires. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est on en a marre, on s'ennuie dans ces camps, c'est insupportable, dans les centres où ils habitent, les CADA, etc. Passer plusieurs mois...
Ces centres de demandeurs d'asile, je suis familiarisée avec ce terme.
Attendre plusieurs mois, voire plusieurs années que le dossier administratif soit accepté ou pas, c'est insupportable. Et c'était certaines personnes ont fait 3-4 ans d'études, même beaucoup plus, et disaient pendant ces années ne plus. C'est un peu ce qui se passe comme pour les enfants, quoi. Par exemple, quelqu'un qui a fait 4 ans de biochimie, qui veut continuer et qui n'a plus accès aux bibliothèques, qui n'a plus accès à ça, il perd aussi ses compétences. Enfin, du moins, il peut pas les nourrir. Et nous, on avait envie que ce temps ne soit pas seulement un temps d'attente, mais aussi un temps de vie. Et pour ces gens, ils sont des étudiants. Ils disaient, on ne veut pas être que des réfugiés, on est aussi des étudiants. Et c'est pour ça qu'on a voulu monter ce programme à l'ENS, donc de cours de français intensif, d'accès aux cours de l'ENS pour ceux qui peuvent, il y a des cours en anglais, et d'accès à la bibliothèque, et de sociabilisation étudiante avec des professeurs, des étudiants qui peuvent les aider à s'orienter dans le milieu universitaire français.
Ah oui, ça c'est important. Merci, merci beaucoup à tous. Cette émission fut trop courte, mais on peut la réécouter sur le site de France Culture. On peut évidemment s'abonner au podcast de l'émission. On peut lire l'article que j'ai consacré à l'école du chemin des dunes de Calais et retrouver un certain nombre de photos de l'école et du campement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine encore à 17h15 et vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.